Jardin d'Isis sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, avec une réalisation de Marie-Agnès Salezada avec Adrien à la technique. On retrouve les émissions sur les podcasts de Radio FM+, pour pouvoir les écouter en différé, et je vous engage à aller sur les podcasts. Je suis avec Jeanne Sacré, poète, qui nous fait l'honneur de présenter un recueil nouvellement paru. Nous sommes encore en présence d'un travail conjoint du poète Jeanne Sacré avec le peintre et graveur Mustapha Belkouche. Un recueil paru aux éditions Almanar en 2022 dont le titre est « De la matière autant que du sens ». Et de la matière, je dois dire que je la ressens de prime abord au toucher de la couverture. Cette matière travaillée et reprise par le peintre et le poète.
Oui, de la matière, effectivement, parce que même un poème, c'est de la matière, d'une façon moins évidente qu'une peinture, mais c'est quand même de l'encre, du papier, une mise en page, de la typographie. Donc il y a tout un côté matériel du poème qui m'intéresse autant que le sens que dégage la suite des mots ou des images, etc.
Parce que la matière, c'est le mot retravaillé, et travailler, retravailler, et les souvenirs qui se posent sur le papier aussi.
Oui, oui, ça peut être très travaillé. Quand on a de la chance, on réussit quelquefois du premier coup à avoir une matière qui vous contente.
Oui.
C'est comme le potier quand il tourne son argile pour en faire une poterie. Ça peut être parfait du premier coup, ou alors il faut mettre la poterie de côté et recommencer.
Ouais. Et vous établissez des parallèles entre peinture et écriture dans ce recueil également.
Oui, alors les parallèles que je fais entre peinture et écriture, c'est surtout le suivant, c'est que... J'ai été d'abord sensible à la différence entre peinture et écriture, parce qu'une peinture se donne d'emblée tout entière, et on l'attaque par un point particulier, puis ensuite l'œil peut voyager dans la peinture, mais il voit quand même toute la chose d'un seul coup, tandis qu'un poème, effectivement, il y a quand même une dimension linéaire, il faut tourner les pages, il y a un côté... Un côté horizontal qui fait que on ne saisit pas le poème d'un seul coup. Mais quand même, comme j'ai découvert que dans la peinture, on pouvait attaquer la peinture par n'importe quel point, j'aimerais bien que dans un poème, ça soit la même chose, c'est-à-dire qu'on puisse commencer aussi bien à le lire au milieu de l'ensemble, ou voir la fin d'abord, et puis ensuite voyager dans le texte autrement. Ce qui ne veut pas dire que je mette de côté le côté linéaire de la chose, mais c'est juste une possibilité comme une autre de voyager à travers le poème.
À ce propos, vous parlez de la grande liberté dont dispose la peinture. Et vous me disiez que vous aimeriez que le poème emmène avec autant de liberté le lecteur.
Oui, alors bon, parler de la grande liberté de la peinture, c'est l'impression qu'on a, et surtout en regardant l'étoile de Mustapha Belkouche, parce qu'il laisse... sa peinture lui permet de laisser venir tout d'un coup des accidents, des accidents à cause du papier qu'il emploie, ou des accidents à cause de la façon de couler de ses couleurs, ou des choses diverses comme cela. Tandis que dans le poème, c'est un petit peu plus compliqué. D'abord, on est pris forcément par le sens. Quand on met deux mots l'un à côté de l'autre, c'est tout de suite du sens, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse désirer autrement. Et donc, on est... J'allais dire prisonnier, mais ce n'est pas vrai non plus, parce que les deux mots qu'on vient de mettre, c'est autant la possibilité de développement auquel on n'avait pas pensé qu'une contrainte dont il faut tenir compte tout de suite. Donc effectivement, il me semble que la peinture est un peu plus libre que l'écriture. Mais c'est très discutable en fait. Oui, oui. Par contre, pour revenir sur la première question, ce que j'aime dans la peinture, c'est que le peintre se sert de motifs, de motifs de couleurs, de motifs de dessin, qu'il les ait pensés ou qu'il soit venu à son insu. Il s'agit de trouver des équilibres ou des déséquilibres de ces différents motifs sur sa toile. Et ça m'a vraiment appris qu'un poème, c'est aussi un ensemble de motifs, des motifs de sens aussi bien que des motifs d'image ou des motifs de sonorité, des motifs de grammaire, des motifs, enfin il y en a toutes sortes. Et finalement on s'aperçoit qu'il s'agit aussi, et là c'est une sorte de matérialité du poème qui apparaît, c'est aussi une façon de regrouper, de dispatcher un peu tous ces motifs dans le poème qu'on est en train d'écrire.
À propos du regard qu'on peut avoir sur une toile, vous parlez de l'importance de l'œil du regardeur qui trouve des détails. Et également, dans le premier poème, vous évoquez cette toile qui était installée dans votre salon, que vous avez à un moment donné retournée contre le mur pour pouvoir avoir un œil nouveau, de nouveau, sur la toile. Et vous discutez également, est-ce qu'il faut entrer par la toile sur la gauche, sur la droite ? Est-ce qu'il faut disposer cette peinture à l'envers, enfin, puisque c'est de la peinture abstraite, donc on peut y entrer comme on veut, quelque part.
Oui, c'est vrai, il y a toute cette possibilité de voyager dans une peinture à partir d'un certain point qui n'est pas le punctum, comme disait Roland Barthes, parce que je pense que le punctum ne dépend pas de la peinture, il dépend du regard du regardeur, qui s'arrête là plutôt qu'ailleurs pour commencer sa déambulation à l'intérieur de la peinture. Cette façon d'être avec la peinture. J'ai perdu votre question.
Je parlais des détails dans lesquels on trouve des minuscules sourires. J'ai trouvé ça très joli. Aussi, par moments, des haies de peupliers, enfin... Oui, ce qu'on peut découvrir dans une peinture, oui, alors, en affûtant son regard.
Oui, c'est ça. Alors, dans la peinture, on peut effectivement beaucoup rêver à partir d'un détail, autant qu'à partir de l'ensemble. Et dans votre question aussi, il y avait cette interrogation sur comment on regarde une œuvre abstraite. Les œuvres de Mustapha sont pas véritablement abstraites. On peut toujours découvrir dans l'emmêlement des couleurs et des taches, des sortes de paysages à l'occasion, effectivement, oui. Un petit bois de peupliers, oui. Quelque part, pourquoi pas. Et Mustapha peint souvent en tournant autour de sa toile. Il n'y a, pour ainsi dire, pas de façon de mettre la toile. C'est pour ça que j'avais imaginé de la mettre dans un sens et de la mettre à l'envers après pour la regarder. Mais j'ai découvert que finalement, même une peinture abstraite, finalement, elle se lit, elle se voit avec beaucoup plus de contentement quand elle est dans un certain sens. Et en général, c'est le sens dans lequel le peintre la met pour signer sa peinture quand elle est signée. Donc apparemment, une toile abstraite n'est jamais véritablement abstraite. C'est plutôt la concrétude des couleurs, des dessins qui font qu'on la regarde dans un sens plutôt que dans un autre.
Également, ça nous permet des incursions dans le monde de l'imaginaire, puisque par exemple sur la peinture de la première de couverture, on peut imaginer une proue à l'avant d'un navire. C'est ça, les petits détails qu'on peut voir surgir en regardant la peinture.
Oui, 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 on peut, bien sûr. Hein, l'imagination est une chose très libre qui peut se saisir de n'importe quoi pour en faire de grosses montagnes ou de grosses cathédrales. Hein.
Et pour vous, en ce qui concerne l'écriture poétique, l'accent est toujours mis sur les paysages en corrélation avec les souvenirs.
Oui.
Puisqu'on retrouve les paysages du Maroc, les paysages de Taos, il m'a semblé que vous nommiez par moments.
Oui. Oui, 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 et ça c'était, j'aime bien là aussi, c'est une rencontre aussi avec les peintures de Belcouche parce que j'y trouve toujours des paysages, soit des paysages qui ont des couleurs marocaines par exemple, dans les tons d'orange ou de marron ou de brun, et puis d'autres paysages qui sont plutôt des paysages de l'Antarctique avec des bleus, des blancs très froids hein, et qui évoquent plutôt des banquises ou des choses comme ça, des écroulements de glaciers ou des choses comme cela. Oui.
Pouvez-vous nous parler de la forme poétique que vous avez adoptée pour ce recueil, puisque vous alternez de brefs poèmes et de la prose ?
Oui, alors dans les textes en prose, en particulier dans ceux que je vais lire tout à l'heure, hein, ce sont plutôt des textes qui s'interrogent plus précisément sur la peinture sur les peintures de Mustapha. Et les textes plus courts, par exemple la suite en italique que je vais lire également, sont de petits textes en vers courts, hein, qui laissent le poème s'interroger sur la notion de couleur. Hein. Voilà, il y a d'autres textes qui sont des textes en vers plus longs, qui s'interrogent davantage sur le paysage, qui s'éloignent un peu des peintures à proprement parler de Mustapha Belcouche, hein, mais qui font des détours, par exemple, par le Maroc ou par l'Espagne lors d'un voyage vers le Maroc. Hein, donc c'est une sorte de contexte vécu dans lequel s'inscrivent la réflexion ou la rêverie autour des peintures.
Allons à la rencontre de vos poèmes, J'âme sacrée, extrait de ce recueil de la matière autant que du sens.
Voilà. Bon, je vais lire deux petites séries de poèmes. Une première qui s'intitule « Une toile peinte et parlée » et une seconde qui sont ces petits textes en italique où le poème s'interroge sur la couleur. J'ai fait beaucoup de livres d'artistes avec Mustapha Belkouche, qui en liaison par exemple avec la Maison de la Gravure Méditerranée à Montpellier. Je voulais dire aussi, parce que c'est assez remarquable et étonnant, que Mustapha Belkouche, qui est peintre, est également un graveur et qu'il a aussi travaillé longtemps sur les chantiers navals français, et qu'il se sert dans ses gravures en particulier de ses outils de métallier pour arriver à faire des gravures d'une finesse vraiment incroyable. Et en liaison par exemple avec la Maison de la Gravure Méditerranée à Montpellier, l'atelier dirigé par Vincent Dezeuse, et puis aussi chez Almanach et également chez Méridiane, hein, à Montpellier aussi. Un texte qui s'intitule « En cri pour les couleurs ». Voilà, alors...
Et je peux dire, c'est un magnifique recueil. C'est vraiment très beau. Pour remercier les éditions Almanach, puisqu'on parle du peintre et du poète, mais on peut parler de l'éditeur également.
Oui, merci Marie-Agnès. Voilà. Donc voilà, les premiers sont des poèmes en prose et la deuxième série de petits poèmes en vers court. Parce que Mustapha Belkouche est originaire du Maroc, les amoncellements ou les éboulements de formes et de couleurs que sont les toiles qu'il peint, et les voilà traités parfois un peu comme on ferait de quelques roches qu'on racle pour en aviver une teinte ou une arête, faire venir à la surface visible quelques nervures intérieures de la pierre, ou ici des traces d'une première couleur enfouie sous d'autres. À cause de cela, on peut laisser venir dans sa mémoire des traversées qu'on a faites dans la montagne marocaine. C'était peut-être en parcourant des Hamadas du Sud, entre Rissani et Nakob, ou passant dans la région de Taderte, en bordure de grandes parois d'ocre fauve ou de pentes presque noires, parfois un rouge déjà violet à cause de la nuit qui s'avance. Et l'œil, à mesure qu'il s'habitue à la complexité de ces paysages, découvre le détail de courtes vallées très vertes ou des villages qui ressemblent plus à de l'écriture qu'on ne saurait pas lire qu'à des rassemblements de fermes couleur des terres qui les entourent. Mais on pourrait se croire aussi bien sur les plateaux et parmi les falaises d'étendues quasi désertiques dans le Colorado ou des reliefs perdus dans le Nevada. Il serait peut-être plus juste de dire que c'est la matérialité même du mot Maroc que je goûte dans cette toile, comme s'il était une mer à sec dont on ne verrait que le fond rocheux. Et la voiture, parfois, roule en effet sur des pistes de caillasse et traverse des rivières qui ne sont plus qu'un nom et du sable. Voilà mon regard errant dans la surface de cette toile de Belkouche. De ce tableau particulier que je garde pour un temps à la maison, et maintenant, parce que me voilà dans un voyage qui reste dans mon souvenir, je pourrais dire parce que justement la montagne autour de nous a des couleurs de terre, des ocres orangés, des marrons, et parfois des marrons plus rouges ou rouges-roses, après les gorges du Todra, ou l'autre jour dans les pentes au loin quand on traversait de Tata à Foumsguid, dire que les couleurs de ce tableau sont marocaines. Et certes, le peintre porte un nom approprié et même a vécu en ce pays du Maroc, mais aussi bien je pourrais les ressentir comme venant d'un coup du sud-ouest des États-Unis, vers Million Cliffs, aux confins de l'Arizona et de l'Utah. Et même, sans chercher si loin des couleurs de terre et de pentes rocheuses, je pourrais tout simplement rêver au brun rouge des labours par chez moi, à des guérets gris-roses ou aux topinières fraîches, aux ornières séchées dans les chemins boueux. On écrit peut-être mieux avec des couleurs qui ont touché à l'enfance. Si j'ai choisi de vivre un peu avec cette toile singulière, c'est sans doute plus à cause de mon enfance en Vendée que de l'enfance marocaine de Mustapha. Et à cause de beaucoup d'autres raisons qui m'échappent. De nombreuses toiles de Belkouche sont dans des tons plus froids de bleu et de blanc mêlés à du noir. Pourquoi donc un peintre s'en va-t-il dans tel ensemble de couleurs pour une toile plutôt que dans un autre? Affaire de matière probablement et de hasard. Le support qui s'est trouvé là, un premier coup de pinceau, et c'était parce que tel pot de peinture était à proximité de la main. Et de ces gestes à peine pensés, tout s'ensuit. Dire cela n'explique pas grand-chose, évidemment, mais permet quand même qu'on ne fantasme pas trop sur ce qui est à l'origine d'un tableau. Surtout que l'origine réelle d'un tableau, c'est peut-être la dernière touche de couleur qu'on y met, ou le dernier grattage. Je promène maintenant le souvenir de ce tableau au Maroc, et voilà que partout je crois le reconnaître qui fait signe. Sur la roche mouillée, deux tons de brun rouge et des couleurs, des parois dans le défilé du Todra. En des pentes qui ressemblent à des terres labourées, parce qu'il a plu toute la journée, aujourd'hui 24 septembre, dans la région de Tinérir. Et parce qu'il y a ces massifs gris-blancs, en leur avancée, les uns quasi dans les autres, et petits dessins très verts d'un bout de vallée, tout en bas de la montagne, en remontant le cours du Dadès, au-delà d'Aïtali. Est-ce que j'invente à mon tour les couleurs de la toile, ou si là, devant le monde, la redonne à mon plaisir ? Et la suite des petits poèmes en italique et en vers court. Avec un peu d'encre noire et du papier blanc, j'écris le mot couleur, on ne voit que du noir et du blanc. Du noir et du blanc qui sont aussi des couleurs. Celle du deuil, par exemple, écrire, ou le deuil des couleurs. Mettre de la couleur dans un poème, se saisir des mots, donner par des matières qui sont dans le monde et qui auraient laissé des traces de leur couleur dans notre corps. Tu dis rouge et voilà, le mot pivoine, tant d'autres, résille sanguine sur la joue de mon père, la rouille cavive de la lumière, un bout de tuile, des organes montrés, la peau d'un brugnon. Si mon poème aveugle, dans le noir des mots, s'imagine voir des couleurs, dans un effort pour les figurer, secouant son dictionnaire, il s'épuise à regarder le monde là devant. Son rouge, le fin doré de ses feuillages, sont-ils même un peu de brillant dans cette nuit des mots ? Couleurs, sont-elles tenues comme au bord des mots, avec le bruit que fait le poème ? Couleurs du monde, couleurs de l'histoire ou de la vie de chacun. Couleur du temps, mais comment dire ? La menthe fraîche roulée dans des papiers, au bord d'un trottoir, un bijou de turquoise, avec un éclat de poterie, un vieux gilet sali de fumier. Je vois des couleurs, comment les prendre dans mes mots, qui ne sont pas des mains. Le poème pense à ce qu'il est ou croit penser, alors que d'emblée autre chose l'emporte, sans qu'on sache trop quoi. Qu'en sait-il, mon poème, si de la couleur lui vient, ou pas, dans son émoi ?
Chers amis et auditeurs, nous clôturons cette session de deux émissions enregistrée avec le poète Jam Sacré. J'espère que vous vous êtes sentis emportés par le rythme de sa poésie, les paysages qu'elle évoque, le timbre de sa voix, cette voix qui nous a plongés par l'intermédiaire de son regard sur l'étoile de Mustapha Belkouch dans une sorte de rêverie.